Merci d'écouter RFI. 8h à Port-au-Prince, il est 13h en temps universel. Dernière partie d'RFI Midi, nous sommes sur le continent américain. Nous irons en Argentine, appeler notre correspondant après des affrontements violents entre la police et des manifestants qui protestaient contre la baisse du pouvoir d'achat des retraités. On compte au moins 20 blessés. L'un d'entre eux se trouve dans un état grave. On parlera aussi de la situation sécuritaire en Haïti, de nouvelles saisies d'armes et puis l'incertitude toujours sur le retour de vols commerciaux à Port-au-Prince. Reportage à suivre également à New York où la pauvreté augmente. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises comme chaque jour. Benoît Ferrand, nous irons avec vous en Guadeloupe où les coupures d'eau récurrentes sont parfois à l'origine de situations surprenantes.
On n'y pense pas forcément en effet, mais exercer dans un salon de coiffure privé d'eau, eh bien ce n'est pas du tout évident. Reportage à suivre tout à l'heure.
À tout à l'heure. Pour l'heure, c'est le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à tous.
Avec la Russie à la une qui n'a toujours pas répondu à la proposition américaine de trêve dans le conflit en Ukraine.
Oui, Vladimir Poutine n'a encore rien dit en public de cette proposition. L'attente continue et les efforts diplomatiques se poursuivent. Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, porteur de cette proposition, vient d'arriver à Moscou. En parallèle, la guerre continue. La Russie concentre ses efforts dans la région de Koursk. De son côté, l'Ukraine a lancé des dizaines de drones la nuit dernière sur plusieurs régions russes. En Ukraine, de nombreuses familles attendent avec fébrilité le retour de leurs proches détenus en Russie. Natalia, mère d'un soldat disparu depuis 3 ans, tente de faire entendre sa voix en organisant avec d'autres familles des rassemblements. Reportage à Kiev de Cerise Sudri-Ledu.
Elle a donné rendez-vous sur la rive gauche de Kiev dans un petit café où cette femme de 50 ans a ses habitudes. C'est un lieu où elle se sent chez elle, où elle retrouve aussi régulièrement d'autres proches de prisonniers. Elle n'a pas revu son fils Artem depuis plus de 3 ans. Soldat engagé dans la défense de Mariupol, il a disparu en avril 2022. Depuis, plus aucune nouvelle.
Pratiquement toutes les informations que nous obtenons sur nos proches qui se trouvent en captivité en Russie, nous les apprenons précisément de ceux qui reviennent, de ceux qui étaient avec eux dans les mêmes cellules.
Alors lorsque Volodymyr Zelensky approuve un cessez-le-feu, bien sûr elle veut y croire. D'autant plus qu'il a insisté sur l'importance d'inclure une clause sur la libération des prisonniers dans le projet d'accord.
Honnêtement, j'aimerais croire que cela est possible, mais il y a énormément de gens en captivité. Plus de 8000 militaires ukrainiens faits prisonniers et un grand nombre de civils.
En attendant d'éventuelles réponses, la mère de famille continuera, comme chaque semaine, à manifester pour réclamer la libération des prisonniers. Cerise Sudri-Ledu, Kiev, RFI.
En France, les députés ont voté une résolution sur le renforcement du soutien à l'Ukraine, comprenant un appel à la saisie des avoirs russes gelés, disposition à laquelle s'oppose le gouvernement.
Le Canada décide d'alléger ses sanctions financières contre la Syrie.
Oui, une décision qui s'inscrit dans une volonté d'aider le pays à ne pas sombrer dans le chaos et l'instabilité, déclare l'envoyé spécial du Canada en Syrie. Parallèlement, l'ambassadrice à Beyrouth prendra aussi en charge les relations avec la Syrie. C'est un autre signal clair d'ouverture en direction des nouvelles autorités de Damas. Depuis la chute de Bachar al-Assad, celles-ci sont en quête de soutien international. Anne Verdaguer.
Le Canada, comme de nombreux autres pays, avait imposé de lourdes sanctions au gouvernement de l'ex-président Bachar el-Assad et à des pans entiers de l'économie syrienne. Après la chute du régime en décembre, le gouvernement par intérim a appelé à une levée totale de ces sanctions pour relancer l'économie et reconstruire le pays ravagé après 14 années de guerre civile. L'assouplissement des sanctions canadiennes permettra, selon le communiqué officiel, de délivrer de l'aide, de soutenir les efforts de redéveloppement local et de contribuer à une reconstruction rapide du pays. Concrètement, des fonds pourront désormais transiter par certaines institutions financières syriennes comme la Banque centrale. Une bouffée d'oxygène pour un pays qui manque de liquidités. Les entreprises locales pourront aussi bénéficier d'un accès facilité aux capitaux. En relâchant la pression financière, le Canada veut montrer son soutien aux autorités par intérim tout en restant prudent. Ottawa a fermement condamné le massacre de 1400 civils alaouites depuis le 6 mars dernier et demande au nouveau pouvoir à Damas de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la violence.
C'était Anne Verdaguer.
En Cisjordanie occupée, l'opération israélienne Mur de fer se poursuit.
Oui, le territoire palestinien connaît une multiplication de checkpoints, des points de contrôle de l'armée israélienne, dont le nombre a flambé ces derniers temps. Il est passé de 565 à presque 800 depuis le 7 octobre 2023, selon le Bureau de la coordination humanitaire des Nations Unies. Reportage à Ramallah d'Amira Swilem.
Des ralentissements à répétition, des files de voitures bloquées jusqu'à plusieurs heures et des accrochages avec des soldats qui se soldent parfois par des morts. Des scènes de la vie quotidienne en Cisjordanie occupée, au point que les radios palestiniennes ont pour certaines des points checkpoint, comme on a des bulletins météo ailleurs dans le monde. Walid Habes, chercheur au Centre palestinien d'études israéliennes, étudie ce phénomène de près.
La justification principale, la raison officielle à ces checkpoints, c'est qu'ils font partie de mesures de sécurité. Mais leur fonction va au-delà de la seule prévention d'attaques. Les checkpoints militaires servent aussi à avoir un contrôle sur le mouvement des Palestiniens.
Au-delà des préoccupations sécuritaires, Walid Habes voit aussi dans ces checkpoints un outil de dislocation du territoire et de la société palestinienne.
Les checkpoints empêchent la liberté de circulation et divisent les communautés palestiniennes. Ils créent aussi un système de privilèges. Certains groupes de Palestiniens bénéficient d'accès facilité, un peu comme un accès VIP au checkpoint, alors que la majorité des Palestiniens s'y retrouvent bloqués.
Il n'est pas rare de croiser désormais des Palestiniens qui déclarent tout faire pour ne pas avoir à quitter leur ville afin de ne pas subir les impôts et violences des checkpoints. Une situation qui risque de ne pas s'améliorer, Israël ayant prévu de multiplier ses points de contrôle. Amira Swilem, Ramallah, RFI.
En France, la guerre des chefs bat son plein à droite.
Oui, on a un peu tendance à l'oublier à cause de la guerre en Ukraine, mais la campagne électorale interne du Parti des Républicains continue. Face à face, Bruno Retailleau, le favori des sondages pour la présidence du parti, et son challenger Laurent Wauquiez, qui n'a pas dit son dernier mot. Il mène une campagne intense auprès des militants. En meeting hier soir à Provins, quelques 90 km au sud de Paris, Laurent Wauquiez s'est mis dans les pas de Jacques Chirac. Reportage de Raphaël Delvolvé.
C'est son plan pour se donner une bonne image.
La filiation de Jacques Chirac, c'est cette filiation d'aimer les Français, les plus petits villages.
Ici à Provins, c'est le fief d'un Chiracien, Christian Jacob, ex-patron du parti et seul poids lourd à soutenir le chef des députés LR, lui aussi voit du Chirac en Wauquiez.
Cette capacité à faire de l'immersion avec les sapeurs-pompiers, les policiers, les agriculteurs, il y a cette même proximité, cette énergie aussi.
La proximité chiracienne, comme pour dépeindre un Bruno Retailleau en ministre trop occupé, mais aussi rappeler un épisode célèbre de l'histoire de la droite française.
Vous savez, des histoires politiques qui se sont écrites avec des challengers, on en connaît. Chirac contre Balladur, qui a été un combat qui n'était pas facile. Et lui, il a été porté par les adhérents.
1995, Balladur trahit Chirac dans la course à l'Elysée, mais perd son pari. Parallèle tout trouvé pour Laurent Wauquiez, qui s'estime lui aussi trahi par le ministre de l'Intérieur.
Vous avez des parcours politiques qui sont faits de trahison, coup de poignard dans le dos.
Parmi les quelques 200 militants, on reste cependant prudent.
Je n'ai pas dit qu'il ne gagnerait pas, hein. Je n'ai pas dit ça, mais ça va être difficile.
Laurent Wauquiez a prévu au total 120 déplacements de campagne dans toute la France.
Oui, il y a peut-être un tempérament de challenger, mais tant mieux.
Guidé aussi, et sans nul doute, par l'instinct d'une survie politique qui se jouera en partie le 17 mai, jour de l'élection.
Reportage à Provins de Raphaël Delvolvé. Enfin, le pape François célèbre aujourd'hui à l'hôpital ses 12 ans de pontificat. Hospitalisé depuis le 14 février à Rome pour une double pneumonie, le pape est désormais hors de danger imminent selon ses médecins, mais on ne sait rien encore d'une éventuelle sortie de l'hôpital. RFI 14h10, ici 14h09, plutôt ici à Paris. Bonne journée tout de suite avec Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. À suivre sur RFI, reportage à New York où la pauvreté augmente pour toucher désormais un quart de la population. Haïti, on en parlera avec le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, mais d'abord, on prend la direction de l'Argentine.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Où l'on retrouve notre correspondant. Bonjour Théo Conscience.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On a vu des scènes de chaos hier devant le Parlement à Buenos Aires, des affrontements violents entre la police et des manifestants mobilisés pour les retraités. Les retraités, ils protestent tous les mercredis pour dénoncer l'effondrement de leur pouvoir d'achat depuis la prise de pouvoir de Javier Milei. Et hier, ils avaient été rejoints par des supporters de foot. Théo, vous étiez sur place quand les affrontements ont commencé. Ces violences qui ont fait au moins 20 blessés, dont un qui se trouve toujours dans un état grave.
Oui, des affrontements d'une rare violence, certainement les plus violents que j'ai pu voir depuis l'élection de Javier Milei. Des bennes à ordures en travers des rues façon barricade, un véhicule de police incendié, des jets de pierre sur la police qui, elle, a répliqué avec balles en caoutchouc, canons à eau et gaz lacrymogène. Au moins 20 personnes ont été blessées, vous l'avez dit, dont une dans un état grave. Il s'agit du photographe indépendant Pablo Grillo, touché à la tête par une cartouche de gaz lacrymogène alors qu'il prenait une photo. Il a été admis pour une chirurgie en urgence à l'hôpital de Ramos Mejía. Et à 23h30 hier soir, il était toujours en soins intensifs, dans un état jugé critique et avec un pronostic vital réservé. Côté policier, le ministère de la Sécurité a fait état de 26 blessés. 124 personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre et 94 d'entre elles ont déjà été libérées sur ordre d'un juge. Une décision critiquée par l'exécutif qui a dénoncé, je cite, une espèce de coup d'État organisé par l'opposition péroniste au travers des supporters de football présents hier. Ces derniers étaient venus se solidariser avec les retraités qui manifestent tous les mercredis devant le Congrès et qui avaient été durement réprimés par la police ces dernières semaines.
Théo Conscience en direct de Buenos Aires où il est 10h11, 8h11 à Bogota. La Colombie à la une de votre revue de presse, Lila Olquinuora, avec ce revers pour le président. Le Sénat a retoqué son projet de réforme du travail et pour Gustavo Petro, les parlementaires vont tout simplement à l'encontre de la volonté du peuple. Il l'a dit dans une allocution télévisée.
Nous pensons maintenant que c'est au peuple de décider, puisque ses représentants n'ont pas été capables de faire résonner la volonté qu'il a exprimée pendant l'élection présidentielle de 2022.
Gustavo Petro va donc organiser une consultation populaire et cette décision ne fait pas l'unanimité dans la presse, Lila.
C'est le moins qu'on puisse dire, Anne. Dans son éditorial, le quotidien de centre-droit El Tiempo rappelle que les membres du Congrès colombien sont élus au suffrage universel. Ils sont donc des représentants légitimes du peuple, et ce, même s'ils ont des opinions politiques différentes de celles du président. Pour le média indépendant La Silla Vacía, cette initiative de Gustavo Petro, le premier président de gauche du pays, est surtout une façon de prendre le pouls des votants en vue de l'élection présidentielle de 2026. El País Colombie ajoute même qu'avec cette consultation, Gustavo Petro met dans la balance ses 4 années de gouvernement.
En Colombie, toujours, l'explosion d'une grenade a fait 3 morts et 9 blessés hier soir dans le centre de Bogota. Selon la police, cette attaque intervient dans le cadre d'une lutte entre groupes criminels pour le contrôle de ce quartier qui est devenu récemment un lieu important dans le petit trafic de drogue. Il est aussi question de violence en Équateur. Le président Noboa a publié hier une photo de sa rencontre avec Eric Prince, fondateur controversé de la société Blackwater, un groupe militaire privé tristement célèbre pour avoir tué des civils en Irak en 2007. Les deux hommes auraient établi une alliance afin de lutter contre le narco-terrorisme, selon les mots du président, qui est en campagne pour sa réélection.
Oui, Anne, selon CNN, le gouvernement équatorien n'a pas communiqué sur le contenu de cette alliance avec Eric Prince, qui s'est déjà illustré dans la région en finançant une campagne contre le président Maduro au Venezuela. Expresso met la rencontre en une et y voit un coup de communication à 1 mois du second tour de l'élection présidentielle. Apparaître sur une photo aux côtés d'un mercenaire est un signe que tout message est valable dans une campagne électorale, surtout s'il sert à créer l'illusion que vous avez trouvé la formule pour vaincre le crime organisé, se désole le quotidien, alors que l'Équateur a été classé pays le plus violent d'Amérique latine en 2024.
Lila Olquinuora, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes. D'abord, on va se pencher sur la presse haïtienne.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Avec notre confrère rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Anne.
Les saisies d'armes s'enchaînent depuis quelques jours à Port-au-Prince ou à la frontière dominicaine et elles permettent, ces saisies, de mettre en lumière des liens qui existent entre différents groupes criminels.
Tout à fait. À chaque saisie d'armes, on finit par remonter quelqu'un qui est en connexion avec l'un des gangs des groupes criminels qui opèrent dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et dans l'Artibonite. À chaque fois, la police a des indices, la police a des suspects, mais rarement, on finit par remonter la filière. Il faut dire que la police en République dominicaine est beaucoup plus rapide que la police haïtienne, car maintenant, on découvre de plus en plus des hommes qui arrivent en transit pour Haïti, mais qui arrivent dans des ports dominicains. Cette année déjà, 2 importantes saisies ont été opérées par les autorités dominicaines. On doit remonter la filière et ça, c'est le travail que la police haïtienne doit s'atteler à faire pour définitivement y trouver les liens entre ces groupes criminels et ces commerçants d'un genre particulier qui s'occupe de la vente d'armes et de munitions.
On apprend par ailleurs ce matin que les locaux de la radio-télévision Caraïbes FM dans le centre de Port-au-Prince ont été incendiés par les gangs, par la coalition Vivre Ensemble la nuit dernière. L'information est confirmée par plusieurs membres du groupe. Pas de détails pour le moment sur l'ampleur des dégâts. Mais c'est en tout cas une nouvelle attaque contre les médias, contre la presse en Haïti. Et dans ce contexte d'insécurité toujours plus grave, la capitale reste isolée. Et vous vous demandez dans votre éditorial, France, si les avions commerciaux vont revenir à Port-au-Prince.
C'est la question qu'on se pose. Depuis le 11 novembre, il y a une interdiction sur l'aéroport de Port-au-Prince pour les compagnies américaines, mais qui assure la majorité du trafic laissant Port-au-Prince. Et bien, cette interdiction a été prolongé pour 3 mois, c'était le 12 décembre, et malheureusement, au 12 mars, les autorités américaines ont décidé cette fois de mettre une interdiction de 6 mois sur l'aéroport de Port-au-Prince et tout ce qui touche à l'aviation civile autour de la capitale haïtienne. Les autorités haïtiennes ont des choses à faire, ont des mesures de sécurité à entreprendre, ont des garanties à donner, et malheureusement, depuis novembre, ces garanties n'ont pas pu être fournies. Et pour le moment, laisser la capitale haïtienne, c'est très cher par hélicoptère pour ceux qui ont les moyens, mais c'est surtout très inquiétant pour ceux qui finissent par prendre la route et qui essaient de rejoindre le Cap haïtien ou bien une autre ville du pays. Laisser Port-au-Prince, c'est un cauchemar.
Enfin, votre journal, Franz, rend hommage à un grand écrivain, le dernier grand poète littéraire, dites-vous, Anthony Phelps, qui est décédé à 95 ans.
Alors, c'est le fondateur de Haïti Littéraire, qui est un groupe qui a eu des poètes célèbres en Haïti. Et Anthony Phelps, 96 ans, était le dernier membre vivant de Haïti Littéraire. Il est mort au Canada, où il vivait depuis des années. Il a été journaliste dans son jeune âge, journaliste à Radio-Canada, jusqu'à sa retraite. Mais surtout, c'était une voix. Et c'est la première personne, en 1966, qui a posé sa voix avec un texte à lui, Mon pays que voici, sur un disque. Et cette voix, tous les Haïtiens ont entendu cette voix. C'était très poignant. C'était le poète de l'exil. C'était le poète qui a toujours eu Haïti chevillé au corps. Et on salue son départ ce matin dans le Nouvelliste.
Anthony Phelps disparu donc à 95 ans à Montréal où il vivait. Merci Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. On peut vous lire sur le site de votre journal, lenouvelliste.com.
RFI. The World's Voices.
On vous retrouve, Lila Olkinoara, pour la suite de votre revue de presse aux États-Unis, où les journaux reviennent sur le démantèlement des grandes politiques climatiques de l'Agence de protection de l'environnement. Démantèlement annoncé hier par l'administration Trump.
Oui, Anne, pour Politico, l'Agence de protection de l'environnement, l'EPA, s'attaque au Saint Graal de la science climatique en remettant en question la dangerosité des gaz à effet de serre sur la santé. Dans une vidéo publiée hier sur X, le chef de l'EPA, Liz Eldin, annonce s'attaquer à une trentaine de mesures de lutte contre la pollution. Dans le Wall Street Journal, il se justifie « Cette dérégulation assurera la sécurité des personnes et de l'environnement » tout en révisant les règles qui étouffaient notre plein potentiel. Désormais, la mission de l'EPA est de réduire le coût de l'achat d'une voiture, du chauffage d'une maison et de la gestion d'une entreprise. Politico assure que cette décision vient bouleverser 15 années de politique climatique, un recadrage total de l'objectif de l'agence, selon le New York Times.
Donald Trump persiste également dans sa guerre commerciale. Il menace désormais l'Union européenne de taxes de 200% sur les vins et les spiritueux si les Européens ne renoncent pas à leur surtaxe sur le whisky. Cette guerre commerciale, elle risque d'avoir des conséquences aux États-Unis, avec des prix de plus en plus hauts, des prix qui augmentent déjà depuis un moment, en particulier dans les grandes villes comme à New York. Un habitant sur quatre ne parvient plus à subvenir à ses besoins de base, c'est-à-dire payer un loyer, se nourrir, se soigner. Lubna Anaki, la pauvreté augmente et cela se voit dans les centres de distribution alimentaire.
Les portes du centre de l'armée du Salut ne sont pas encore ouvertes, mais dans la rue, la file d'attente s'étend déjà sur plusieurs centaines de mètres et fait le tour du pâté de maison.
On est arrivé à 7h du matin, mais les gens ne respectent pas tous la queue et on se retrouve tout au bout.
Pour s'assurer une place dans la file d'attente, certains sont venus la veille pour attacher un sac en plastique ou laisser leur cabas le long de la grille qui entoure le centre de l'armée du Salut. Chaque jeudi, pour la distribution alimentaire, c'est le même ballet qui se répète et ils sont près de 300 chaque semaine.
Pour moi et tous les gens ici, c'est une aide précieuse.
Mariella vient ici régulièrement. Cette retraitée de 65 ans dit avoir du mal à finir ses mois.
Ça fait longtemps que je ne travaille plus. J'essaie de garder des enfants de temps en temps parce que j'ai des impôts à payer et un loyer. Mes enfants m'aident parce que parfois j'ai de l'argent et parfois pas.
À l'intérieur du centre, les équipes de volontaires finissent de tout préparer.
Aujourd'hui, nous donnons des protéines, du lait, des pâtes. On a aussi des oignons, des carottes. Chaque semaine, ça change.
Une prière de groupe pour l'équipe, puis les portes s'ouvrent à 10 heures. En tout, plus d'une tonne de produits alimentaires va être distribuée en moins de 2 heures, en plus des 300 repas chauds servis chaque jour.
Okay, you can go now. See you next week. Next.
La demande ne cesse d'augmenter.
Vous avez plus de monde qu'avant la pandémie ?
Oh oui, 4 à 5 fois plus. On avait une moyenne de 70 à 80 personnes avant le Covid. On est entre 250 et 350 personnes maintenant. Là, un tiers du centre est utilisé pour stocker la nourriture. Du jamais vu avant la pandémie.
Le major Guillermo Di Caterina est le directeur du centre.
Quand on dit banque alimentaire, les gens imaginent automatiquement des SDF, des chômeurs. Mais en réalité, nous avons des gens qui travaillent, des familles où les deux parents travaillent. Mais ils n'arrivent pas à finir leur mois. Parfois, ils doivent décider entre payer le loyer ou manger.
Ces difficultés, un New-Yorkais sur 4 y fait face. C'est ce que révèle une récente étude de l'Université de Columbia à laquelle Christopher Weimer a participé.
Les résultats sont très inquiétants. Le taux de pauvreté dans la ville est le plus élevé jamais enregistré depuis qu'on a commencé ces études il y a 10 ans.
Une situation qui, selon cette étude, touche principalement les minorités et qui est due en grande partie à l'inflation et à la flambée des prix des loyers à New York.
New York a toujours été une ville à deux facettes. Une ville où il y a beaucoup de richesses, avec des gens qui ont des salaires très élevés et qui vivent très bien. Et on le voit dans les données de notre étude. Dans le même temps, beaucoup de gens ont du mal à s'en sortir avec le coût de la vie très élevé, l'un des plus élevés des États-Unis.
Le nombre de New-Yorkais vivant aujourd'hui sous le seuil de pauvreté est le double par rapport à la moyenne nationale, une crise dont le maire de la ville et la gouverneure de l'État ont promis de faire une priorité sans grand résultat pour le moment. Loubna Naki, New York, RFI.
La pauvreté qui risque d'augmenter encore aux États-Unis si la guerre commerciale se poursuit, les conséquences risquent d'être particulièrement sensibles pour les produits ou les industries liées au Canada. On a du mal à y voir clair dans la stratégie du président américain puisque Donald Trump a renoncé en fin de compte à ses 50% de droits de douane pour l'acier et l'aluminium en provenant du pays voisin. Mais ce qui est sûr, c'est que le Canada ne paraît plus être un allié pour Donald Trump. Et cela fait poser quelques questions au Canada. Certains se demandent s'il ne faudrait pas rejoindre l'Union européenne. Cette idée, elle peut faire sourire et pourtant elle gagne du terrain. La Commission européenne s'est dite flattée par l'intérêt. Elle a rappelé toutefois que l'adhésion était soumise à des critères très stricts. Mais quand même, Nafia Libert, un sondage récent montre un vrai désir des Canadiens de se rapprocher de l'Europe.
Effectivement, 44% des Canadiens sont favorables à l'idée de rejoindre l'Union européenne, selon un sondage de la firme Abacus Data qui a été réalisé en février. Et plus récemment, il y a le quotidien québécois La Presse qui a sondé ses lecteurs et les deux tiers réclament un renforcement des liens économiques et militaires avec l'Europe. Alors oui, on sent un désir de rapprochement, mais ce que montrent surtout ces chiffres, c'est que même si les Canadiens se sentent profondément nord-américains, ils ont un rejet très fort en ce moment des États-Unis comme une volonté de s'affranchir du partenaire de toujours et d'une relation perçue comme étouffante avec les États-Unis, surtout depuis le retour de Donald Trump, qui répète à qui veut l'entendre que le Canada doit devenir le 51e État américain. Cette tendance prend une telle ampleur que Frédéric Ménard, directeur du département de sciences politiques de l'Université de Montréal, s'est penché lui aussi sur la question de savoir pourquoi les Canadiens se laissent tenter par l'Europe.
C'est des gens qui, en fait, se sont sentis pendant très longtemps nord-américains
et qui là se sent profondément agressé par le comportement de Donald Trump et aussi probablement blessé par le fait que ce comportement ne soit pas dénoncé aux États-Unis particulièrement, que ce ne soit pas l'objet d'une réprobation.
Dans ce contexte, l'Union européenne, qui est elle aussi attaquée par Donald Trump, est en train de s'imposer comme un allié naturel dans les esprits. Et cette préférence pour le bloc des 27 est particulièrement marquée chez les électeurs libéraux et néo-démocrates, donc les plus progressistes, ainsi que dans les provinces de l'Est du pays.
Mais ce n'est pas pour autant que le Canada envisage de devenir le 28e pays membre de l'Union européenne.
Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour et même invraisemblable d'un point de vue politique. Cela dit, pour certains, le Canada pourrait se servir d'une possible candidature à l'adhésion européenne comme d'une arme de dissuasion massive dans sa guerre contre les États-Unis. À nouveau, Frédéric Mérand.
On ne pourrait pas exclure non plus que le Canada décide de déposer une candidature, ne serait-ce que pour montrer aux Américains qu'ils ont des options, tout en sachant très bien que cette adhésion n'aura probablement jamais lieu.
Et dans tous les cas, une telle démarche prendrait au moins une décennie pour aboutir. Mais dans ce climat nord-américain des plus polarisés, l'idée d'un Canada tourné vers l'Europe pourrait bien s'ancrer durablement dans le débat public.
Nafi Alibert, correspondante de RFI au Canada.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Benoît Ferrand, en Guadeloupe, les coupures d'eau récurrentes sont parfois à l'origine de situations étonnantes.
Eh oui, on n'y pense pas forcément, mais exercer dans un salon de coiffure privé d'eau, eh bien, ce n'est pas du tout évident. Écoutez la présidente de l'Union des entreprises de coiffure de la Guadeloupe, qui doit utiliser des bouteilles d'eau dans son salon. Elle s'appelle Anne Kellery et elle est au micro de François-Joseph Ousselin.
Voilà les bouteilles. On est obligé d'avoir tout ça. Et à chaque fois qu'on envoie l'eau, il faut remplir, hein. Parce que si vous ne remplissez pas le lendemain, vous n'avez pas d'eau. Et on est obligé d'avoir les bouteilles, parce que sinon on n'a pas de clients. Comment on fait pour payer le personnel, les charges fixes? Pour payer l'USAF, les impôts, le personnel. Tant qu'on aura ce problème-là, on ne pourra rien faire. Mais là, ça devient très, très difficile. Donc je pense que soit on va fermer 2 jours pour gagner un petit peu du temps, hein, mettre le personnel en chômage technique, fermer 2 jours et travailler les 3 derniers jours. S'il y a un programme avec le service de l'eau, bon, on verra avec eux comment on fait. Hein. Installer une citerne, ce n'est pas évident parce que ça coûte cher. Il faut 5 000 € pour installer la citerne. Alors, qu'est-ce que vous faites? Soit vous installez la citerne et vous enlevez un personnel. D'accord? Moi, j'ai déjà essayé de faire rupture conventionnelle. Mon personnel ne veut pas. Donc, je suis obligée de tenir comme ça. Mais s'il y avait l'eau, j'aurais pu travailler normalement.
On reste dans, si l'on peut dire, dans le domaine de l'eau douce avec ces jeunes du service militaire adapté de la Guyane qui vont intégrer la société qui exploite le bois mort dans l'immense lac né de la construction du barrage de Petit-Saut. Nous sommes bien sûr donc en Guyane. Reportage Ludmilla Lewis.
C'est un partenariat pour des emplois directs acté entre les volontaires du RSMA et Triton, l'entreprise de biomasse qui extrait les arbres immergés de Petit-Saut pour en faire du bois de charpente et de l'énergie. Les volontaires du RSMA pourront être embauchés afin de travailler dans la scierie de cette centrale. Alexis Tarteret, commandant d'unité de la 3e compagnie du RSMA.
Donc là, ce sont des contrats à durée indéterminée, des beaux emplois d'un point de vue forme, puisque c'est en soi ce qu'on peut décrocher de mieux aujourd'hui. Un CDI qui cible des métiers autour des métiers du bois. Aujourd'hui, ils ont besoin de recruter pour cette scierie et le choix de la société, qui est un choix qui est noble, c'est de recruter localement pour permettre le développement du territoire et de la jeunesse.
Les volontaires recrutés devraient intégrer le groupe d'ici août 2025.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. On se quitte avec un peu de musique. Yeah. De rock québécois Galaxy avec le morceau Dolbo. Galaxy sera en concert ce soir à Québec. Et c'est ainsi que se termine RFI Midi. L'émission était réalisée aujourd'hui par Vincent Biteau. On se retrouve demain, 11h30, temps universel. Et dans 30 secondes maintenant, vous avez rendez-vous avec Pascal Paradou pour son émission De Vive Voix. Très bonne journée à tous.
RFI Midi. Ce jeudi, Couleur Tropicale fête ses 30 ans. Claude Issiard.
Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamahondi, Brittany Lenga et toute l'équipe, nous sommes prêts ce jeudi pour les 30 ans de Couleur Tropicale. Nous célébrerons nos artistes, nos musiques, les identités d'Africa et de ses diasporas. Les 30 ans de Couleur Tropicale, ce sont 2 heures de show afro dans la radio et sur les réseaux. En ce jour, Couleur Tropicale a 30 ans. Rendez-vous à 20h10 temps universel, 21h10 en France. Toi-même, tu